RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour, c'est le supplément du dimanche avec, comme toujours, au sommaire du reportage et du témoignage. C'est un pays qui se démarque à l'heure où les frontières se ferment, où réfugiés et migrants sont renvoyés. L'Ouganda affiche sa différence. On y part dans un instant. 20 minutes de reportage et juste après, on débriefe avec notre reporter. Peut-être l'aviez-vous noté si vous êtes fidèle de ce rendez-vous du week-end. Nous étions plusieurs fois ces derniers temps au cœur des manœuvres de l'OTAN, entre mirages assourdissants, pieds glacés dans la neige de Norvège, à bord d'une frégate française en mer Baltique en deuxième partie d'émission. La grande muette deviendrait-elle bavarde? L'OTAN montre ses muscles et le fait savoir. C'est la plus grande population de réfugiés du continent africain, plus d'1,5 million de personnes, dans un pays pourtant pas très grand, l'Ouganda. La raison, une politique d'accueil et d'ouverture des frontières unique au monde, mis en place depuis plus de 60 ans. Un modèle qui n'a jamais été remis en question malgré les crises sociales, politiques, économiques qu'a vécu le pays, mais qui aujourd'hui est en danger. La multiplication des crises mondiales remet en cause son financement, alors que le flux de réfugiés, lui, ne se tarit pas. Ouganda, un modèle d'accueil des réfugiés à l'épreuve des crises internationales, c'est un grand reportage de Pauline Nasidi.
À 6 heures de route de Kampala, quasiment à la frontière avec la Tanzanie, un grand panneau annonce l'arrivée dans le camp de Naki Valley. C'est la fin de la route goudronnée, le début d'une piste qui serpente et relie les différents villages de ce camp de réfugiés pas comme les autres. Ici, il n'y a pas de tente, de barrière, il n'y a pas beaucoup de contrôle. Les gens sont libres de circuler, c'est le plus vieux camp du pays et il accueille encore de nouveaux arrivés.
Bienvenue au centre d'accueil Kabazana. Je suis Jennifer Tchemeriwa du HCR et point focal pour ce centre d'accueil de Kabazana. Actuellement, on attend environ 175 familles, c'est-à-dire à peu près 400 personnes qui arrivent de Kisoro.
C'est le milieu d'après-midi à Naki Valley. Et ici, au centre d'arrivée, centre d'enregistrement, des bus sont attendus en provenance de la frontière congolaise, de camps de transit où des Congolais sont arrivés ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines. Et désormais, ils vont arriver ici pour être enregistrés, pour obtenir leurs papiers, pour obtenir l'aide auxquelles ils ont le droit et surtout pour obtenir la terre, en tout cas le bout de terre que le gouvernement ougandais va leur donner. Et donc ils sont plusieurs dizaines attendus dans des bus à arriver ici à Naki Valley, où certains risquent de rester encore de longues années dans ce campement de réfugiés.
Ils viennent juste d'arriver ?
Oui, oui, ils viennent juste d'arriver de Nyakabande.
Il y a des femmes, des hommes, des enfants ?
Oui, oui, dans ce convoi qu'on vient d'accueillir, il y a des femmes, des hommes, mais aussi des enfants non accompagnés, des gens qui ont survécu aux violences, qui ont des handicaps.
Les bus sont en train d'arriver à Naki Valley, donc 400 familles sont attendues aujourd'hui. Voilà, les bus viennent d'arriver ici à l'accueil. Plusieurs bus venus de quelques heures de route d'un autre camp. Ici, là, ce sont donc majoritairement des Congolais qui vont descendre et qui vont commencer leur service d'enregistrement. Ça prendra en moyenne 5 jours avant qu'ils puissent ressortir dans le camp de Naki Valley.
Ça
C'est quoi votre prénom?
Paul.
Et vous venez d'où? Nord Kivu?
Sud de Kivu.
Sud Kivu?
Oui, je suis passé par Goma, Bunagana jusqu'ici.
Et pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi?
Parce que j'étais insécurisé. J'ai venu ici pour chercher la sécurité.
Je peux vous poser une ou deux questions? C'est quoi votre prénom?
Moi, je m'appelle François Moukiz.
François, et vous venez juste d'arriver là?
Oui.
Vous êtes content d'être arrivé? Vous avez un grand sourire. Vous êtes content d'être là en Ouganda?
Oui, nous sommes contents d'arriver ici en Ouganda.
Et vous allez faire quoi maintenant?
Nous allons vivre ici en Ouganda.
Elle est où votre famille?
La famille, elle est partie, c'est la même.
Elle est déjà partie?
Oui, moi j'ai venu moi-même.
Vous êtes venu tout seul, elle et votre famille, elle était déjà partie?
Oui, lorsque j'étais à l'école, j'ai entré à la maison, j'ai rencontré la famille, elle est déjà partie. Et moi j'ai choisi de venir moi-même.
C'est quoi votre prénom?
Moi c'est Delphin.
Delphin, alors vous aussi vous venez du Nord Kivu?
Oui, je viens de Rutshuru.
Et pourquoi vous avez décidé de venir?
J'ai fui la guerre.
Vous venez d'arriver là? Vous êtes fatigué?
Oui, je suis fatigué.
Vous avez envie de quoi là maintenant?
L'envie.
Ouais. Vous voulez quoi?
Moi, je veux même étudier ou continuer d'autres vies ici en Ouganda.
Vous pensez que vous allez rester en Ouganda?
Oui, bien sûr.
Pourquoi en Ouganda?
Parce qu'en Ouganda, il y a la paix.
Comme Delphin, Paul et François, ils sont nombreux à franchir chaque jour la frontière à la recherche de la paix. Un flux continu de réfugiés qui commence à peser sur le pays. Le commandant Mutawi est le responsable de l'État ougandais à Nakivale.
Nous continuons à recevoir de nouveaux réfugiés, surtout de la République démocratique du Congo. Au moins 200 par semaine. Et on doit leur offrir des services alors que les ressources diminuent. En tant que gouvernement, on essaye de mobiliser plus de ressources pour venir en aide aux plus de 1,5 million de réfugiés que nous avons en Ouganda. C'est un challenge qui nous demande de nous poser et de penser en dehors des idées reçues.
Hello, hi, Tembo.
Hello, how are you?
Nice to meet you.
Nice to meet you. Nice to meet you.
Thank you.
Good morning once again.
Bonjour.
Leonard is my name. I work with Allight.
Je m'appelle Leonard et je travaille pour l'ONG Allight. Nous sommes au camp Kingi. C'est un nouveau village ici de réfugiés venant du Congo. La plupart de ces familles sont arrivées en août de l'année dernière.
Most of these families came around August last year.
Ici, on arrive dans le quartier de Djourou. Djourou, c'est un nouveau quartier qui a été créé à partir du mois d'août, quand de nombreux réfugiés sont arrivés de RDC, fuyant les derniers conflits dans la zone. On voit autour de nous pas mal de nouvelles petites habitations construites récemment par les réfugiés. Et donc à chaque fois, ces habitations ont un peu de terrain autour, ce qui leur permet de pouvoir commencer à cultiver la terre qui est autour des maisons. Il y a juste à côté, Léonard nous montre le point d'eau qui permet à toutes les familles d'avoir de l'eau. Et puis, à quelques minutes à pied, se trouve le centre de santé de Djourou et surtout des écoles qui ont été nouvellement créées dans cette zone parce que pour chaque arrivée massive, il faut créer les infrastructures qui vont avec. Et ça, c'est un vrai défi ici à Nakivale. Jumbo, bonjour. Vous venez du Congo?
Oui, oui.
Ouais.
Nous sommes des natifs du Congo.
Vous êtes des natifs du Congo?
Oui, oui.
Et vous êtes arrivé quand? Vous vous appelez comment, monsieur?
Moi, je m'appelle Pascal Chigadir.
Et Pascal, alors, vous êtes arrivé quand ici?
Je suis arrivé ici le 31. Et octobre 2023. Et je suis avec 9 enfants et ma femme.
Et alors, c'est comment la vie ici?
Ah, c'est tellement difficile.
Pourquoi c'est difficile?
Nous n'avons pas à manger. En tout cas, nous avons beaucoup de difficultés au niveau d'ici.
Je suis ici, c'est parce que je n'ai aucun soutien. Je suis femme et veuve avec 8 enfants et moi aussi la 9e. Maintenant, nous sommes une famille de 9 personnes.
Espérance, ce n'est pas la première fois que vous partez de chez vous.
Ce n'est pas la première fois. En 1998, il y avait les guerres tribales entre deux tribus. On avait fui vers le site Kivu. On a fait 6 mois là où on était. Après les 6 mois, on est encore retourné dans le village. Après avoir retourné, on a fait plusieurs sensibilisations, des réunions de cohabitation pacifique, les sensibilisations pour les cohabitations pacifiques entre ces deux tribus, pour qu'on puisse encore vivre ensemble, se marier, faire beaucoup de travail dans la cohabitation pacifique. La deuxième guerre, j'avais fui, c'était en 2012, c'était la guerre des CNDP. J'ai fui encore vers Goma. À Goma, là-bas, c'était catastrophique. On est resté là-bas, trouver à manger c'était un problème, trouver à boire c'est un problème. Maintenant, c'est la troisième fois que j'ai pris fuite à cause de la guerre ou de l'insécurité. J'ai pris fuite vers l'Ouganda. Ici à l'Ouganda, je suis ici. On m'a accueilli, on m'a donné les couvertures, les casseroles, on m'a donné l'endroit où je vais construire et rester avec mes enfants.
Mais vous êtes fatiguée quand même.
En tout cas, je suis fatiguée. Je ne peux pas rentrer au Congo parce que là, au Congo, j'ai connu beaucoup de problèmes pendant la guerre, pendant la sécurité. J'ai connu les violences. Mes enfants ont connu les violences. Plusieurs personnes de ma famille ont décédé. Vraiment, je suis fatiguée. Je ne peux pas retourner encore au Congo.
La Kivale, qui est un très vieux settlement, le plus vieux du pays, a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés qui viennent de l'Afrique de l'Est de façon générale. Des réfugiés rwandais, sud-soudanais, soudanais, éthiopiens, somaliens, avec des gens qui sont installés ici depuis un certain temps et qui arrivent à trouver la paix.
Rester en Ouganda, c'est donc le souhait de beaucoup de réfugiés. Rencontrés ici, à Nakivale, explique Bruno Rotival, le directeur pour l'Ouganda du bureau d'ECO, le programme d'urgence humanitaire de l'Union européenne, l'un des bailleurs de fonds les plus importants. Mais la situation financière du programme est aujourd'hui compliquée.
Oui, la situation financière de l'opération humanitaire dans sa globalité en Ouganda est compliquée. Le niveau de financement du plan d'appel global pour le financement de la réponse pour les réfugiés était financé à hauteur de 35% l'année dernière, signifiant des coupes importantes dans les budgets d'assistance alimentaire pour les réfugiés, dans tous les budgets de protection, aussi bien pour si le rythme actuel d'arrivée de nouveaux réfugiés continuait à rester au même niveau, on aurait définitivement des problèmes pour pouvoir répondre à leurs besoins. C'est une situation compliquée. Il y a 5-6 ans, le budget moyen par réfugié financé par la communauté internationale était d'environ $170. Aujourd'hui, c'est la moitié. L'aide n'est pas restée constante, elle a plutôt baissé. Et le nombre de réfugiés a augmenté à la fois par un accroissement naturel et puis à la fois par une arrivée importante de réfugiés. Comme je l'ai dit, l'Ouganda est entouré de pays assez turbulents. L'est du Congo, le Sud-Soudan... Ce sont les deux pays d'où viennent la majorité des réfugiés, mais depuis l'année dernière, on va arriver des réfugiés soudanais. Comment répondre à ces nouveaux besoins aujourd'hui, on ne sait pas faire encore.
Les coupes budgétaires affectent tous les secteurs et particulièrement l'aide alimentaire. La ration mensuelle a été diminuée avec des conséquences sur la santé et une augmentation de la malnutrition dans le campement. Cela se voit notamment au centre de santé. Nous sommes accueillis par le docteur Justin Okello qui nous fait visiter les installations. Ce jour-là, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés parmi les patients. Actuellement, 40% des enfants de Nakivale sont touchés par la malnutrition chronique.
Le cerveau humain grandit énormément les 1000 premiers jours d'une vie et tout ce qui va mal se passer aura des conséquences. L'enfant aura des difficultés à devenir un élève studieux, un adulte productif qui contribue au développement du pays. Il y aura donc des conséquences sur la communauté, sur l'enfant et sa famille.
Yeah.
Pour réduire les effets de la malnutrition, le Programme alimentaire mondial, le PAM, a mis en place un plan à l'attention des futures mamans qui reçoivent une ration tous les mois. Mais face à la tension alimentaire dans le camp, cela ne suffit pas à améliorer la situation, ajoute le docteur Okello.
Mothers get this, but you have three or four more children.
Une maman enceinte va avoir une ration, mais elle a déjà 3 ou 4 enfants à la maison. Elle va manger cette ration toute seule alors qu'il n'y a pas de nourriture à la maison. Vous êtes une maman enceinte avec des enfants qui souffrent de la faim et qui n'ont rien à manger. Donc à la fin, elle va partager sa ration avec les autres membres de la famille. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce programme ne fonctionne pas comme il le devrait.
Je m'appelle Yannick Fariala. Je suis réfugié ici en Ouganda.
Mais vous faites partie des gens qui travaillent ici dans ce centre de santé?
Effectivement, je suis un volontaire. Nous faisons la liaison entre l'hôpital et les villageois.
Ici, oui, la malnutrition, ce manque de nourriture, il touche beaucoup les enfants.
Tous les jours, nous visitons nos concitoyens, maison par maison. Parfois, nous trouvons quelques réfugiés qui tombent malades de la malnutrition. Et on les envoie ici, beaucoup souffrent de la famine. Parce que maintenant, il y a des réfugiés qui ne reçoivent pas même de la nourriture. On nous dit qu'il n'y a pas de fonds pour les réfugiés. La guerre en Ukraine, la guerre à Gaza. Voilà pourquoi la malnutrition attaque beaucoup de personnes ici.
Vous qui vivez là depuis 12 ans,
oui.
Vous avez vu cette aide alimentaire baisser?
Oui, lorsque nous sommes venus, parce que je suis venu ici depuis en 2012. Oui, on était un peu bien parce qu'on nous donne la nourriture. Mais après un certain temps, on a commencé à réduire. Jusqu'à maintenant, il y a ceux qui ne reçoivent pas. Parce qu'ils donnent seulement la nourriture, de quoi manger, à ceux qui sont vulnérables. La paix, c'est bon, parce qu'il n'y a pas, ici en Ouganda, il n'y a pas la guerre. Il y a la paix, mais avec la situation de la nourriture, c'est catastrophique, c'est catastrophique.
Une baisse des aides et une augmentation des besoins. Pour le commandant Mutawi, le compte n'y est pas et l'Ouganda se retrouve seul en première ligne.
Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. C'est ce qui se passe sur le terrain. Nous continuons à accueillir des réfugiés et les ressources baissent. On a une politique ouverte que nous voulons soutenir. Mais on ne peut donner que ce que nous avons. Si on n'a pas assez de ressources, on ne peut plus le faire. Si une école a besoin de 100 professeurs et que l'on peut juste en financer 6, qui va payer pour les 94 autres? Est-ce que l'on doit être blâmé pour cette politique? Les réfugiés quittent les autres pays pour venir ici parce que nous avons cette politique. Alors oui, on offre la sécurité. Les réfugiés ici peuvent vous dire qu'on offre une certaine paix, ce que veulent avoir la plupart des réfugiés qui arrivent ici. Mais l'Ouganda est un pays en développement avec des ressources limitées. On ne peut pas offrir tous les services à notre population et vous ajoutez plus d'1,5 million de réfugiés. C'est pour cela que le gouvernement, le président, les autorités plaident pour une augmentation de l'aide. On cherche aussi des financements alternatifs pour réduire le poids de cette charge.
Pour l'instant, les autorités ougandaises n'envisagent pas de remettre en cause ce modèle. Et pour Bruno Rotival, il faut tout faire pour ne pas en arriver là.
C'est le réceptacle de l'ensemble des conséquences des conflits de la région. Et on le voit avec les réfugiés congolais qui sont arrivés de façon assez massive l'année dernière et l'année d'avant. On l'a vu les années d'avant avec les réfugiés sud-soudanais. Et ça va continuer maintenant. L'Ouganda, et on doit s'en réjouir, continue à avoir une politique progressiste, continue à laisser ses frontières ouvertes pour accueillir des réfugiés. On le voit aujourd'hui avec l'arrivée des Soudanais, c'est quand même assez loin. Et malgré les difficultés rencontrées par l'Ouganda, cette politique est maintenue. Le dernier recours, c'est l'Ouganda. Les témoignages de personnes, de réfugiés qu'on a entendus hier, c'est on vient ici pour être finalement en sécurité et je ne pense pas rentrer chez moi. Si ces frontières étaient fermées, c'est des gens qui resteraient dans des zones où la vie est impossible. Donc évidemment que ça serait une catastrophe. Et c'est aussi pour ça qu'il faut continuer à soutenir l'Ouganda financièrement et continuer à faire passer le message auprès des bailleurs qu'il est nécessaire de dépasser le cadre de l'aide humanitaire pour construire le futur des réfugiés pour certains d'entre eux, sont là depuis très longtemps et qui vont rester très longtemps.
Et en attendant de construire ce futur, l'Ouganda part donc à l'urgence. Avec les conflits en RDC et au Soudan, les humanitaires s'attendent à accueillir plus de 50 000 personnes pour cette année 2024.
Bonjour Pauline Azidi.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, c'est vous qui donc signez ce grand reportage « Ouganda, un modèle d'accueil des réfugiés à l'épreuve des crises internationales ». Ce qu'il faut toutefois préciser, c'est que vous êtes parti en Ouganda dans le cadre d'un voyage de presse avec une délégation d'ECHO qui est l'agence d'urgence humanitaire de l'Union européenne. Pourquoi avoir accepté ce cadre de travail?
Alors vous le savez, hein, Patrick, pour RFI, je couvre depuis un peu plus de 2 ans maintenant la République démocratique du Congo et vous avez pu entendre dans ce reportage beaucoup, beaucoup de témoignages de Congolais. En fait, ce reportage en Ouganda, il m'a permis un peu de passer de l'autre côté du miroir. Que se passe-t-il quand au bout du bout du bout de leur parcours de déplacés, ces Congolais que je croise dans le Nord Kivu lors de mes reportages franchissent la frontière? Alors quand je suis en mission et que je me rends dans les camps de déplacés autour de Goma, il y a toujours cette notion de temporaire. Les gens ne s'installent pas, ou en tout cas, s'ils le font, c'est malgré eux. Au départ, ils partent de chez eux, probablement en se disant que ça va durer quelques jours. Et 10 ans plus tard, finalement, on les retrouve en Ouganda, dans un autre pays, avec une autre langue. Et ce reportage, c'est un peu cette envie de raconter la suite de leur histoire.
Effectivement, une sorte de droit de suite. Alors, on le comprend en écoutant votre sujet. L'Ouganda, c'est un modèle unique. Mais ce que vous me disiez, Rantaine, c'est que ce modèle d'accueil à bras ouverts, il a aussi ses limites.
Oui, effectivement, on a entendu plusieurs interlocuteurs en parler de cette exception ougandaise. Hein. C'est le seul pays au monde qui laisse ses frontières ouvertes à tous les réfugiés, même des pays qui ne sont pas frontaliers. C'est d'ailleurs le cas des Soudanais qui arrivent en ce moment. Entre les deux pays, il y a quand même le Soudan du Sud. Et ces Soudanais, aussi étonnant que cela puisse paraître, ils arrivent en avion de Kampala avant d'entrer dans le processus des réfugiés. Mais la limite de ce modèle, c'est finalement le futur de ces personnes. Je suis un réfugié, j'arrive en Ouganda, je m'installe, je monte un commerce où je trouve un travail. Mes enfants vont à l'école, mais après, Patrick.
Alors après, c'est quoi le problème? Vous voulez dire que se pose la question éternelle de la nationalité?
Oui, en Ouganda, les réfugiés restent des étrangers. Quand ils arrivent dans le pays, ils ont 2 choix. Le statut de réfugié ou celui de demandeur d'asile. Alors la quasi-totalité des personnes choisissent le premier qui est quasiment donné automatiquement. Le statut de demandeur d'asile est plus difficile à obtenir et en cas de refus, c'est le retour au pays d'origine. Mais ce statut de réfugié, s'il vous permet de vous déplacer, de vous établir, de travailler librement dans le pays, il ne vous permet pas de devenir un citoyen ougandais. Ni à vos enfants d'ailleurs. Alors récemment, la loi a changé, une petite porte s'est ouverte. Vous pouvez faire une demande après 20 ans de présence en Ouganda, mais ça c'est de la théorie. En pratique, et les humanitaires que j'ai vus et à qui j'ai posé la question me l'ont tous dit, à ce jour, il n'y a pas eu de cas de demande de nationalité de réfugiés qui ont pu aboutir, en tout cas de leur témoignage à eux. Et forcément, Patrick, on se rend bien compte hein, que quand on est un enfant qui est né en Ouganda, de parents réfugiés, qu'on a grandi en Ouganda, on a fait ses études, et pour certains même qu'on commence à se construire une carrière, ce statut quasiment irrévocable de réfugié, il est compliqué à porter.
Merci, Pauline Azidi.
Merci.
Sur RFI, la suite de grands reportages, le supplément du dimanche. On grimpe à bord d'un navire un peu particulier.
On s'entraîne pour une guerre qu'on espère ne jamais voir.
De fait de sécurité, alarme Volvo en Charlie 30-20. Le personnel évacue.
Après 2 mois à patrouiller dans les eaux de la mer Baltique, l'Aquitaine est de retour à Brest, grand port militaire de l'ouest de la France. L'Aquitaine, c'est ce que l'on appelle une FREM, une frégate française multifonction. Pourquoi la Baltique? Il suffit de regarder une carte. Tous les pays riverains sont désormais membres de l'OTAN, sauf un, la Russie. On parle de mission de réassurance de l'Alliance, en clair de renforcement des dispositifs militaires, ici avec 150 marins déployés. 24 heures sur un navire de la marine française en mer Baltique, c'est un grand reportage de Marielle Vituro.
Branle-bas,
Il est 7h45. La journée commence sur la frégate Aquitaine. Les lampes rouges, allumées pour se guider dans les coursives la nuit, s'éteignent et la chanson du jour retentit. À la rampe, là où l'on sert le petit déjeuner, tout le monde se croise. Il y a ceux qui viennent de terminer leur quart et ceux qui prennent leur poste. Après une escale à Helsinki, le navire fait maintenant route vers la Pologne.
L'objectif principal de notre mission, c'est d'observer ce qui se passe en mer Baltique pour comprendre les comportements, que ce soit des acteurs militaires comme des acteurs civils.
François Tristram, le commandant de la frégate.
L'autre objectif, c'est de soutenir et rassurer nos partenaires de l'OTAN. Par notre simple présence, en fait, on leur signifie qu'on est à leur côté dans cette zone, qui est une zone de plus en plus importante, stratégique. Ça nous permet également d'entretenir une connaissance mutuelle, nos savoir-faire opérationnels, qui sont ensuite le gage de notre efficacité lorsque nous aurons à travailler ensemble.
Sur cette frégate furtive, longue de 150 mètres, la passerelle, le poste de pilotage, est l'un des lieux stratégiques du navire, l'un des rares endroits d'où l'on voit la mer. L'officier Marceau est le chef de quart.
C'est une mer avec beaucoup de circulation, beaucoup de navires de commerce. On a les grands ports commerciaux, que ce soit ceux d'Helsinki, on a également les ports commerciaux de Saint-Pétersbourg, de la Pologne, de différents pays scandinaves, avec des pays à forte industrialisation comme l'Allemagne ou encore la Pologne. Effectivement, on détecte beaucoup de ferries et de transports de marchandises. Et c'est effectivement une des mers les plus chargées du monde. On n'a actuellement que deux passages pour rentrer en mer Baltique, que sont le Skagerrak et le Kagerrak, et qui rendent donc la circulation à la fois au nord, dans les détroits de Finlande, qui sont assez resserrés, donc assez chargés, et également au sud.
Qui restreint l'occupidès ?
Ce matin, en passerelle, tout le monde s'affaire pour un exercice avec l'aviation lettonne, l'artilleur Alois.
Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on simule un index, un exercice d'un aéronef qui se rapproche de nous, qui joue un drone, donc qui va juste faire dépasser au-dessus de nous, et nous, on va balancer nos armes en fonction de ça.
L'Antonov letton est passé à basse altitude et à faible vitesse au-dessus de la frégate. Le capitaine de corvette François revient sur l'exercice.
L'aéronef letton donc jouait ce qu'on appelle le rôle d'un Lauslo flyer. Donc c'est un type de menace que l'on peut rencontrer, notamment on en entend parler en ce moment en mer Rouge. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Et il nous faut forcément nous y préparer. Préparer également nos opérateurs à pouvoir interroger ces avions.
Un peu plus tard, les marins de la frégate s'entraîneront à tirer contre terre. Un autre exercice mené lui aussi avec l'armée de terre lettonne. Pendant ce temps, la vie du bateau continue.
On va au local dehors, au Delta 20-10, donc un local machine.
Où on trouve ? À l'intérieur.
Des diesels alternateurs.
Donc ce sont les moteurs
qui génèrent de l'électricité à bord.
C'est là que travaille le mécanicien Mathieu.
Et dans le cas des diesels alternateurs, c'est deux moteurs sur les quatre qui est à bord. Donc là, j'étais en train de faire la dilution, on appelle ça. C'est on regarde le taux de gasoil dans l'huile. Donc c'est important, sinon ça peut abîmer fortement les moteurs. Et juste derrière, on faisait la pointe d'huile. On fait une ronde de vérification tous les jours. Donc dans chaque local des machines, on va regarder les appoints d'huile sur les alternateurs. On va purifier les bouteilles d'air pour éviter qu'il y ait de la condensation qui se forme dedans. C'est quelque chose qu'il faut faire parce que c'est de trop gros risque d'usure sur le bateau. Sur les moteurs, c'est une propulse, donc à partir de là, on ne peut pas se permettre de manquer un jour.
La veille, la frégate, sous le commandement de l'OTAN, avait reçu l'ordre de faire décoller son hélicoptère embarqué. Le commandant François Tristram raconte.
Alors nous quittions notre escale de Helsinki. Et donc nous avons eu l'information qu'un convoi de bâtiments militaires russes transitait entre Saint-Pétersbourg et le sud. Et donc nous avons reçu l'ordre de repositionner ce groupe. Donc c'est ce que nous avons fait en faisant décoller notre hélicoptère, puisque ce groupe était à une grande distance de notre bâtiment. L'hélicoptère a l'allonge suffisante pour aller à une distance raisonnable, observer la route et la vitesse de ce convoi.
Le lieutenant de vaisseau Gonzague était aux commandes.
En l'occurrence, ce jour-là, il nous a fallu relocaliser des bâtiments de surface d'un de nos compétiteurs stratégiques annoncés dans la zone. Donc avec mon équipage, on a décollé pour aller rejoindre une zone de patrouille pour, dans cette zone, retrouver avec nos capteurs ces bâtiments en question. Donc quel capteur on a pour retrouver un bâtiment en surface ? On a principalement notre radar panoramique qui nous permet de détecter des pistes surface jusqu'à 200 nautiques et qui nous permettent également, c'est pour ça que ce radar a été conçu, d'identifier un périscope de sous-marin. Donc c'est un radar qui est très performant. En plus de ce système, on a ce qu'on appelle un FLIR. Un FLIR, c'est une caméra infrarouge qui va nous permettre, de jour ou de nuit, à longue distance, d'avoir une identification visuelle d'une piste, d'un bateau, d'un aéronef. Donc voilà. On a également nos yeux pour voir, et ça c'est aussi un élément important. On assure une veille attentive de tout ce qu'on peut voir autour de nous.
Plus tard, dans le central opération, devant les multiples écrans qui scrutent la mer et le ciel en permanence, le commandant donnera plus de détails sur ces bâtiments militaires russes repérés au nord de l'île suédoise de Gotland. À l'entrée de la frégate en mer Baltique, au début de la mission, la situation a été nettement plus tendue.
Alors on se trouvait à peu près à une centaine de kilomètres de l'enclave de Kaliningrad lorsque les aéronefs ont fait route vers nous. Et lorsque nous les avons interrogés à la, VH, à la radio pour signifier notre présence, en leur demandant de s'écarter, à ce moment-là, ils ont réagi en s'écartant. Et ensuite, dans un deuxième temps, ils ont fait route vers nous pour nous survoler en montrant leurs armes sous leurs ailes.
C'est une manière un peu affirmative aussi de montrer qu'eux sont là ?
Oui, c'est ça, c'est une manière de montrer leur présence. Et nous, nous avons continué notre patrouille sans changer de route, sans changer de comportement. Mais en exprimant finalement notre capacité à naviguer dans cette zone, exercer notre liberté de navigation dans cette zone.
Une situation qui s'était déjà produite avec d'autres navires français en mer Baltique, notamment avec la frégate Chevalier Paul. L'OTAN avait alors publié un communiqué le 18 novembre 2022, dénonçant le survol dangereux du navire par deux avions russes. Le commandant s'attendait à cette situation.
Comme nos missions sont quasi permanentes dans la région, on a ce retour d'expérience qu'on échange entre bateaux. Et je savais que mes prédécesseurs avaient déjà été survolés. Et donc j'étais préparé pour ça. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de ne pas être surpris et de ne pas surréagir finalement à quelque chose qui est assez usuel dans la région. Et d'ailleurs, quand les bâtiments russes passent au large de Brest, nous aussi, on envoie des bâtiments pour voir ce qu'ils font, les survoler à distance raisonnable. Mais finalement, c'est quelque chose d'assez normal de surveiller ses approches.
Deuxième service paré, bon appétit.
Pour ravitailler les 150 marins trois fois par jour, le navire a son boulanger qui cuit le pain tous les jours. 20 baguettes pour le petit déjeuner, 40 le midi et 40 le soir. Et à chaque grade, ses particularités pour être servi, relève le quartier maître Riyad.
Il y a une tradition pour le commandant. Il y a le maître d'hôtel qui est en accord avec le commandant. Il y a un signe du commandant. Et le commandant, on se met au garde à vous. Le commandant est servi et après, le commandant est servi. Tout le monde répète et tout le monde va s'installer pour que l'état-major passe à table.
De nouveau, en passerelle, tout le monde est sur le qui-vive. L'Aquitaine reçoit la visite du Stockholm. Bertrand, commandant en second.
Alors aujourd'hui, on est très heureux d'être peut-être la première marine à pouvoir faire un exercice conjoint avec un navire de la marine suédoise, alors que la Suède vient tout juste d'intégrer l'OTAN. Et rencontrant une corvette suédoise à la mer, en mer Baltique, eh bien, on a cette possibilité d'échanger des marins. On a envoyé 4 marins sur le Stockholm, la corvette en question, et on reçoit à notre tour 4 marins suédois à notre bord pour leur faire découvrir notre frame. On s'échange du personnel et en fait cette connaissance mutuelle elle est primordiale. Parce que plus on connaît son partenaire de l'intérieur de façon informelle, comment son bateau est organisé, et bien on est plus efficace au combat.
L'arrivée de la Finlande dans l'OTAN il y a quelques mois, puis de la Suède tout récemment, sont des bonnes nouvelles.
La force de l'OTAN, en fait, et non seulement dans ses capacités militaires qu'elle peut avoir et que chaque partenaire fournit, mais en fait c'est surtout le nombre. Et le nombre, quand l'OTAN s'exprime sur une question internationale, quand la voix de l'OTAN ressort sur des questions de défense, elle est d'autant plus forte que le nombre d'alliés qui font partie de cette alliance est nombreux.
L'ENH est en retour sur nous. Une fois qu'il sera posé, on lancera le poste de combat. Et ensuite, on déroulera le Securex prévu cet après-midi.
Le Securex est l'exercice de sécurité. Sur le bateau, dans ce monde en vase clos, chaque marin a son rôle de militaire et toujours une autre fonction, secouriste, pompier, afin d'assurer la sécurité. Les voies d'eau et les incendies restent finalement la plus grande menace au quotidien.
Nous venons de percuter un objet sous-marin. Nous venons de ressortir une secousse à bord et demander à tout personnel d'effectuer une ronde des fonds et de rendre compte au PC Sécurité.
Tout ensuite s'accélérera, un incendie éclatera à plusieurs endroits, dans les coursives les pompiers dans leur tenue de protection dérouleront de longs tuyaux et le carré des officiers se transformera en centre de soins pour les blessés. La frégate est un navire de guerre. Elle est donc équipée en conséquence avec des missiles de croisière navale et des missiles de lutte anti-aérienne. Le commissaire Corentin fait la visite.
Mais on a toujours, pour l'autodéfense, une capacité artillerie avec un 40-76 mm qui se trouve au-dessus de nos têtes, deux canons de 20 mm qui sont téléopérés depuis la passerelle, et puis des mitrailleuses 12,7 mm également sur les ailerons, pour l'autodéfense, notamment contre les menaces asymétriques, mais pas seulement.
Même en temps de paix, certaines règles sont à respecter sur le navire. Le capitaine de corvette, François.
Alors, évidemment, ce qu'on demande lorsqu'on est en mer, c'est d'avoir une certaine discrétion. Voilà, on reste un bâtiment militaire. Notre but aussi, c'est d'éviter d'être détecté par d'autres unités. Et donc, dans ce cadre-là, certains outils que nous avons lorsque nous sommes à terre, comme un téléphone portable, doit être utilisé avec parcimonie. Donc on va demander à nos équipages, typiquement, d'avoir un téléphone portable en mode avion, ce qui évitera qu'il borne sur des stations terrestres et donc amener une indiscrétion du bateau lors de sa navigation. Ça fait partie également de notre préparation, de s'entraîner à être discret. Et donc si on ne le fait pas en temps de paix, on n'y arrivera pas en temps de guerre.
Dans un des locaux de la frégate, on trouve aussi le poisson, une grosse boule jaune qui cache un sonar ultra performant et qui sert notamment pour la dissuasion contre les sous-marins nucléaires. Son pilote est le lieutenant de vaisseau, Paul Henry.
L'enjeu de la dissuasion en mer Baltique est très faible à mon sens, parce que c'est une mer très fermée, donc compliqué de s'y rendre. Il faut être en surface pour franchir les détroits danois. Donc globalement, il n'y a pas le même enjeu de dissuasion. En Baltique, c'est plus de l'entraînement et puis des suspicions quand on pourrait avoir un sous-marin, un écho qui est un peu étrange. Dernièrement, on a eu un écho justement un petit peu étrange et donc pour ça, on a mis le poisson à l'eau pour s'assurer qu'on n'avait vraiment rien autour de nous. Effectivement, on n'avait rien autour de nous.
Un équipement qui amène à faire réfléchir pour le commandant François Tristram.
Toutes nos frames à Brest sont dotés de cet armement, mais en fait c'est pas l'objectif principal. Ici on est dans une mission d'observation de la situation maritime et aérienne. Il s'agit pas de placer un porteur de missiles de croisière à un endroit donné, c'est vraiment pas l'objectif. Mais par contre effectivement ça peut être vu par nos compétiteurs comme un marquant fort, donc c'est à prendre en compte.
La frégate circule dans les eaux de la mer Baltique, loin de l'Ukraine, mais tout proche de la Russie. Impossible pour le lieutenant Paul Henry de faire abstraction de la guerre.
Je suis engagé dans l'armée en sachant qu'il y a toujours cette possibilité-là. Je je vous mentirais en disant que c'est que j'y pense tous les jours. En revanche, c'est certain que c'est une possibilité et que les tensions dans le monde et les exemples récents de guerre en Ukraine ou les engagements actuels en mer Rouge font penser que peut-être un jour on sera amené à engager des armes. J'espère le plus loin possible. Une expression que j'avais entendue, on s'entraîne pour une guerre qu'on espère ne jamais voir. Voilà, c'est le propre des armées, on passe notre temps à s'entraîner en espérant ne jamais faire usage des armes de la manière dont on s'est entraîné.
Au nom du Père qui a séparé les eaux d'avec le ciel et la terre, et du Fils qui foule et apaise la tempête, et de l'Esprit qui plane au-dessus des océans, Vierge Marie, Reine des flots.
À bord, le prêtre, le Padre, comme on le surnomme, évoque régulièrement ces questions avec les marins. Tous les jours, à 18h, il s'installe dans le local des torpilles. Un chariot revêtu d'une nappe se transforme en hôtel et il célèbre la messe.
C'est une question que certains abordent, voilà, moi que je ne provoque pas nécessairement. Mais là, à bord, j'en ai déjà discuté avec l'un ou l'autre, oui. C'est des questions qui se posent au moment où on fait des exercices, au moment où il y a un compte-rendu, au moment où on réfléchit, on évoque tel ou tel aspect de la mission.
Les fonds de la Baltique sont traversés de part en part par de nombreux câbles et autres connexions énergétiques entre les pays, des gazoducs, mais aussi des câbles électriques entre la Lituanie et la Suède, par exemple. La mission de l'Aquitaine est certes militaire, mais son rôle civil demeure important, relève le commandant François Tristram.
C'est vraiment le cœur de notre mission, c'est d'observer pour comprendre sur le temps long. Ça permet d'avoir une certaine profondeur stratégique aussi pour la France, qui étudie aussi ces informations, et une compréhension fine des comportements pour voir finalement les choses qui vont changer de l'ordinaire et qui nous permettent de mesurer éventuellement des changements de posture des uns et des autres. On peut aussi comparer les comportements, voir des comportements anormaux, ça peut être dans le trafic civil, et c'est de cette façon qu'on contribue aussi à la protection de toutes les installations critiques, qu'elles soient de surface ou sous-marine.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Et je la regarde enchaîner les cigales.
Sur la frégate, tout le monde se croise. Pour ceux qui ne seront pas de quart et qui pourront dormir cette nuit, la journée se termine par un jeu vidéo, quelques notes de guitare, une discussion sur l'état du monde. À 7h45, le branle-bas retentira. Les compagnies se réuniront pour faire un point sur la journée à venir. Et l'Aquitaine poursuivra sa route.
En 10 ans, sans tête, soit je la quitte en lui disant, garde le sourire, plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de sourire dans le calme. Nos deux corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil, maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir, dans le calme et la tendresse.
Bonjour Marielle Vitureau.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante dans les pays baltes. On vient d'écouter votre grand reportage, 24 heures sur une frégate française en mer Baltique. Alors de fait, vous êtes resté embarqué un petit peu plus que cela, 3 jours. Qu'est-ce qui, à bord, vous a le plus marqué ?
Eh bien, d'abord, c'est un bateau militaire, donc pratiquement aucune ouverture sur l'extérieur. Donc toutes les surfaces sont conçues de telle façon à être détectées le plus difficilement possible par les radars. Donc on peut vraiment passer la journée sans aller à l'air libre ou même voir la mer, surtout si on travaille sur les moteurs ou dans les cuisines. Donc cela demande vraiment presque un effort d'aller dehors. L'autre point marquant, ce sont tous les capteurs présents sur la frégate. Dans le central opération qu'on évoque dans le reportage, eh bien, les données récupérées arrivent en permanence. Alors il y a un lien continu entre la passerelle et le central opération, mais aussi entre ce lieu et les autres navires de l'OTAN. La frégate a patrouillé avec d'autres navires de l'OTAN, mais ceux-ci, eux, étaient en mer de Norvège. Seule l'Aquitaine se trouvait en mer Baltique. Et évidemment, le central opération est aussi en lien avec les autorités françaises. Alors on pourrait vraiment se croire seul au beau milieu de la mer Baltique, eh bien en fait, non.
De fait, on ne l'est pas effectivement. Marielle, je paraphrase l'un de vos interlocuteurs. « Il faut s'entraîner pour ne pas avoir à faire la guerre », dit-il. « S'entraîner, c'est aussi se montrer. » Et en mer Baltique, on l'a bien compris, tout le monde est là. Bien sûr également l'OTAN, certes, mais bien sûr aussi la Russie. On se croise et on se toise.
Oui, ce n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel, ces interactions. Donc, comme vous l'avez dit, la Russie est riveraine de la mer Baltique. Les navires militaires russes circulent donc sur cette mer. Et Kaliningrad est vraiment une grande zone militaire. Alors, si d'après les informations lituaniennes, eh bien, les forces terrestres présentes à Kaliningrad ont été envoyées combattre en Ukraine, la flotte militaire, elle, est toujours présente. Alors, après mon départ, Patrick, la frégate Aquitaine a encore circulé en mer Baltique pendant un certain temps et elle a été approchée par un drone russe. Et la situation a alors été beaucoup plus soudaine et surtout beaucoup plus tendue. Les autres journalistes qui étaient alors à bord ont relaté l'événement. Et par exemple, comme le drone arrivait par l'arrière, eh bien, la frégate a dû changer de route. Puis deux autres pistes aériennes ont été détectées. Tout le monde a été rappelé à son poste de combat. Ça veut dire par exemple que les pompiers ont dû revêtir leur tenue de protection, que les portes ont été fermées pour assurer l'étanchéité du bateau.
Et ces interactions avec les Russes, Marielle, elles ne se déroulent pas uniquement sur la mer Baltique, mais aussi dans l'espace aérien.
Oui, tout à fait. L'aviation militaire russe survole aussi très fréquemment cette zone au-dessus de la mer Baltique. Il s'agit le plus souvent de se rendre entre Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Et là aussi, l'OTAN assure une mission de police du ciel depuis 2004, même depuis l'entrée des trois pays baltes dans l'OTAN il y a 20 ans. Toutes les semaines, depuis quasiment l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, eh bien, la Lituanie publie tous les lundis les interactions avec les aéronefs russes. Et par exemple, Patrick, la semaine dernière, les avions qui survolent le ciel de l'OTAN ont décollé 6 fois pour identifier des avions qui volaient soit sans plan de vol, soit sans transpondeur, et ça c'est dangereux. Et dans le cas cité dans le reportage où l'avion russe est passé au-dessus de la frégate, eh bien les avions de l'OTAN là n'ont pas décollé pour accompagner ces aéronefs russes car les avions se trouvaient déjà dans la zone d'approche aérienne de Kaliningrad.
Une chose encore, Marielle Vituro, quelle importance prend la mer Baltique aujourd'hui ?
Eh bien, certains affirment que l'on pourrait appeler cette mer non plus mer Baltique, mais lac de l'OTAN. À l'exception de la Russie, au nord et au sud de la mer, eh bien, tous les autres pays riverains sont désormais des pays membres de l'OTAN. Alors évidemment, cela renforce la sécurité de la région, car la Russie n'est plus en mesure de bloquer l'accès de la mer aux autres pays de l'OTAN. En cas d'acheminement de matériel vers les pays baltes pour les défendre, eh bien, la mer Baltique sera très très importante. Par la route ou par le train, eh bien, les connexions sont beaucoup plus difficiles. Il n'existe par exemple qu'une seule ligne de chemin de fer entre la Pologne et la Lituanie. Et puis, en mer Baltique, ce n'est pas uniquement ce qui se passe sur l'eau qui est important, mais aussi sous l'eau. Et l'arrivée de la Suède de l'OTAN offre aux Baltes des capacités uniques de surveillance que eux n'ont pas, car bloquer les communications ou l'approvisionnement en énergie qui passe par des câbles sous-marins, eh bien, cela peut aussi avoir des conséquences dramatiques.
Merci, Marielle Vituro. C'est la fin de ce grand reportage, le supplément du dimanche. Merci à Eva Piedel et Diego Tenorio. On se retrouve samedi et dimanche prochain à 9h10 temps universel, 11h10 à Paris. Prochaine diffusion d'un grand reportage sur l'antenne de RFI. Demain, lundi, 19h40 temps universel, premier volet sur les 30 ans du génocide au Rwanda. Dans un instant, c'est l'heure du journal.